poussière et granit. Présenté par Christian Delors.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes bien sur Radio Alliance Plus, 103.2 FM, DAB+, et radioallianceplus.fr. Voici Poussière et Granit, au micro Christian Delors et à la technique Louis Esparcel. Voici le sommaire de cette émission. Musée du désert, conférences et visites nocturnes, assemblée du 1er septembre. Puis ce sera un article de Sébastien Fatt dans l'hebdomadaire Réforme sur Emmanuel Macron et les protestants. Et nous terminerons avec un article du pasteur Mathieu Bouche sur la Syrie, un an après le séisme. Musée du désert. La dernière conférence du mercredi pour ce mois d'août aura lieu le mercredi 21 août. Et ce sera Marianne Carbonnier-Bourcart, maître de conférence honoraire à l'Institut protestant de théologie, faculté de Paris, qui donnera cette conférence sur le thème « Qui était la reine des Camisards ?» La part des femmes dans la guerre des Camisards. Je rappelle aussi que vous pouvez faire une visite nocturne tous les lundis à 21h30. Venez redécouvrir le musée accompagné de guides en costume. Mais il faut réserver à l'avance au 04 66 85 02 72. Et puis bien sûr, il y aura l'Assemblée du désert le premier dimanche du mois de septembre, c'est-à-dire le 1er septembre. Le thème de l'Assemblée sera les Cantiques du désert. Il y a trois siècles, en 1724, s'éteignit à Genève Bernard Pictet, célèbre théologien. C'est lui qui a bousculé le psautier de Genève. Les 150 psaumes de David mis en vers par Marot et Bèze, et a travaillé à un texte s'inspirant de l'Évangile pour aboutir en 1768 à un nouveau psautier pour les protestants de France. Le culte à 10h30 sera présidé par la pasteur Ingrid Prat de l'Église protestante unie de Montpellier et alentour. L'après-midi, on entendra une allocution historique du professeur Alice Takai de Sorbonne Université. L'Assemblée participera ensuite à une évocation musicale de Daniel Jublin, qui est auteur, compositeur, interprète, sur le thème des Galériens aux Galiléens. Le message final sera donné par le pasteur Marcel Manoël. Pour se rendre à l'Assemblée du désert, depuis Nîmes, comme chaque année, l'Église protestante unie de Nîmes organise un déplacement en bus pour 18 euros aller-retour. Départ à 8 heures précises du square Antonin, début du quai de La Fontaine, pour un retour prévu aux alentours de 18 heures. Réservation des places à la Maison du protestantisme, 04 66 67 97 40, à partir du 26 août. Idées et débats. J'ai souvent l'occasion de citer l'hebdomadaire Réforme et certains de ses articles. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un article paru le 27 juin dans le numéro 4049, dans la rubrique « Idées et débats ». C'est un article à propos de politique, intitulé « Emmanuel Macron et les protestants à l'heure du divorce ». Un article signé par le sociologue Sébastien Fatt. Les résultats des élections européennes du 9 juin montrent que la relation privilégiée entre le président de la République et les électeurs protestants est une chose du passé, analyse Sébastien Fatt. La droitisation sécuritaire de la ligne présidentielle, un fonctionnement jupitérien vertical très peu protestant, aurait contribué à rebuter l'électorat luthérien, réformé ou évangélique. Ancien collaborateur de Paul Ricoeur, un temps proche de la deuxième gauche, de Michel Rocard, Emmanuel Macron a bénéficié par le passé d'une grande cote de sympathie auprès des protestantes et des protestants. En 2017, Régis Debray écrivait le livre « Le nouveau pouvoir » aux éditions du Cerf, ouvrage dans lequel il analysait une forme d'affinité élective entre l'offre politique du nouveau locataire de l'Élysée et, entre guillemets, un génie du néo-protestantisme. Les enquêtes de sortie des urnes organisées à l'occasion des élections présidentielles de 2017 et 2022 qu'il a remportées en donnent une illustration quantifiable. Lors de la présidentielle de 2017, selon l'IFOP, 30% des protestants avaient voté Emmanuel Macron dès le premier tour, au-dessus de la moyenne nationale. En 2022, le vote protestant en sa faveur, toujours au premier tour, s'était même accru, atteignant 36%. Une, entre guillemets, différence protestante, pro-Macron, très nette, par rapport aux autres électorats confessionnels. Une défaite cinglante. Cette singularité électorale protestante existe toujours, en 2024, mais inversée. La lune de miel prolongée entre Emmanuel Macron et l'électorat protestant est terminée. L'affinité protestante pour Macron s'est transformée en aversion marquée, si l'on en croit un sondage IFOP de sortie des urnes à l'issue des élections européennes du 9 juin. La liste de Valérie Hayer, candidate du camp présidentiel sur laquelle se sont portés 14,6% des suffrages, n'a convaincu que 2% des électeurs protestants, à égalité avec le parti animaliste. Les protestants auraient donc voté 7 fois moins que le reste de la population pour la candidate du parti d'Emmanuel Macron. Ces élections 2024 ne sont certes pas des scrutins présidentiels, les enjeux sont différents. Cependant, les tendances de fond restent, bien que les résultats soient à interpréter avec prudence. En effet, à ce jour, le protestantisme représente environ 3% de la population française. L'échantillon retenu par l'IFOP n'inclut au maximum que 70 personnes relevant du protestantisme. La première leçon de ce scrutin est donc une défaite cinglante pour le président français et le mouvement politique qu'il représente. Deux principales raisons semblent pouvoir expliquer ce basculement. D'abord, la mise en place de la loi confortant le respect des principes de la République, dite loi séparatisme, du 24 août 2021, qui a frappé de plein fouet les « bons élèves » entre guillemets protestants, qui jouaient le jeu du cadre associatif 1901 et 1905. Contestée de tous côtés, cette loi a laissé des traces. Ensuite, la loi pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, du 26 janvier 2024, qui a suscité de vives critiques d'acteurs protestants de toutes tendances, en raison de certaines dispositions jugées contradictoires au principe de non-discrimination. Plus généralement, la droitisation sécuritaire de la ligne présidentielle, l'évolution vers une laïcité autoritaire de contrôle, alliée à un fonctionnement jupitérien vertical très peu protestant, aurait contribué à rebuter des portions croissantes de l'électorat protestant, qu'il soit luthérien, réformé ou évangélique. Les récents débats autour du projet de loi sur l'aide active à mourir, jugés entre guillemets inopportuns par le président de la Fédération protestante de France et déploré par le Conseil national des évangéliques de France, pour lequel, entre guillemets, la fraternité, c'est d'aider à vivre, pas d'encourager à mourir, non pas arranger les choses. Les Cévennes et les banlieues. 5 autres leçons ressortent de ce scrutin. Bien qu'il reste inférieur de 6 points au vote catholique d'extrême droite, le vote protestant pour le Rassemblement national, 26%, et Reconquête, 11%, est désormais équivalent à la moyenne nationale avec un survote pour Marion Maréchal, tête de liste de Reconquête, qui a depuis été exclue du parti. Faut-il y voir un certain vote évangélique équivalent au trumpisme évangélique blanc états-unien ou un vote protestant identitaire, notamment en Alsace, au nom de terroirs menacés? On observe par ailleurs un très net survote pour le Parti communiste français. Le sérieux et l'intégrité de l'offre politique présentée par le jeune Léon Desfontaines paraît avoir séduit, qui a reçu les suffrages de 9% des électeurs protestants, contre moins de 3% dans l'électorat général. Il faut aussi noter un léger survote en faveur de la liste Place publique, Parti socialiste, de Raphaël Glucksmann. On trouverait ici une confirmation de la « sainte alliance », entre guillemets, la « sainte alliance des Cévennes et des banlieues », voire réforme 3943 du 26 avril 2022, en faveur de la gauche démocratique et non populiste. La conjonction d'un tropisme huguenot dont les Cévennes restent porteuses et d'une sociographie multiculturelle, afropéenne et populaire dans les banlieues évangéliques. On peut encore constater un sous-vote pour la France insoumise, confirmant les tendances de 2017 et 2022, les outrances populistes de Jean-Luc Mélenchon et les graves dérapages de plusieurs de ses lieutenants, Émeric Caron, David Guiraud, Ercilia Soudet, rebute un électorat historiquement plus sensible que d'autres au fléau de l'antisémitisme. Enfin, viscéralement attaché au pluralisme et à la diversité des propositions politiques, l'électorat protestant a porté 17% de ses voix sur des petites listes, bien davantage que la moyenne nationale, qui est de 7%. C'est donc un article de Sébastien Fatt, dont le Réforme rappelle qu'il est historien, chercheur au groupe de recherche Société, Religion, Laïcité du CNRS. Sébastien Fatt est l'un des meilleurs connaisseurs français de l'évangélisme. Syrie, un an après le séisme. La semaine dernière, nous avons commencé à parler du dossier proposé par l'Action chrétienne en Orient dans le magazine L'Église missionnaire dans son numéro de juillet 2024. Je rappelle que L'Église missionnaire est une publication de l'Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine. La troisième partie du dossier évoque la situation en Syrie un an après le séisme. Les deux tremblements de terre du 6 février 2023 et les milliers de répliques lors des semaines qui ont suivi ont dévasté le sud de la Turquie et le nord-ouest de la Syrie. Cet événement catastrophique a engendré un élan de solidarité mondiale. Au niveau de l'Action chrétienne en Orient, nous avons été en contact avec nos églises sœurs dès le premier jour pour soutenir les actions d'urgence entreprises sur le moment et pour s'engager dans la durée à travers la mise en œuvre de projets. Nos partenaires habituels, l'Église du Synode arabe et l'Union des Églises évangéliques arméniennes au Proche-Orient, ont été directement touchés par le séisme dans les localités d'Alep, de Latakié et de Hama. Mais d'emblée, ils ont également choisi d'être acteurs d'entraide, d'accompagnement, de reconstruction et de soins. À la suite de notre appel d'urgence Syrie, et grâce à la générosité de nombreux donateurs individuels des paroisses, d'associations, d'églises et d'institutions liées au protestantisme français, nous avons pu récolter 167 000 euros tout au long de l'année 2023. Passé les premières actions d'entraide menées sous le coup de l'urgence, il nous a fallu discerner avec nos partenaires comment utiliser au mieux cet argent dans le temps, en fonction des projets possibles et du contexte spécifique à la Syrie. Le séisme dans le contexte syrien. C'est au milieu de la nuit en hiver, alors qu'il pleuvait à Alep et que les températures ne dépassaient pas 5 degrés, que le premier tremblement de terre s'est produit, poussant hors de leur foyer des dizaines de milliers de personnes cherchant à préserver leur vie. La survenue de cette catastrophe dans les ténèbres et au cœur de conditions météorologiques difficiles est comme une image cruelle qui vient rappeler que cet événement a frappé une Syrie déjà ruinée par de longues années de guerre et plongée dans une situation économique et sociale extrême. Le pays reste divisé territorialement et continue d'être le théâtre d'affrontements de nombreux acteurs aux intérêts opposés. Un habitant sur trois compte parmi les déplacés internes. Des millions de Syriens dépendent en temps normal de l'aide humanitaire internationale qui s'amenuise aujourd'hui, car d'autres situations et conflits ont pris le devant de l'actualité. La situation économique s'est encore aggravée ces dernières années, la monnaie nationale perdant 99% de sa valeur, 90% de la population vit sous le seuil de pauvreté et subit inflation et pénurie importantes. Le salaire moyen mensuel fluctue dans une fourchette allant de 10 à 15 euros, très loin des 60 euros nécessaires pour couvrir tout juste les besoins essentiels d'une seule personne chaque mois. De nombreuses infrastructures sont insuffisantes, notamment en matière de soins. Le pays souffre d'une corruption généralisée et de l'impossibilité de remettre sur pied une économie normale en raison de la faillite de l'État, de l'absence de règlements politiques et de la dureté des sanctions internationales qui frappent tout un chacun sans pour autant affaiblir le régime de Bachar el-Assad. Ce contexte particulier explique pourquoi l'aide d'urgence internationale en matière de soins et de recherche de personnes ensevelies sous les décombres a mis du temps à se mettre en place en Syrie. L'entraide s'est donc organisée d'abord au niveau local et les églises y ont participé. Ainsi, à Alep, la paroisse protestante du synode arabe a accueilli environ 700 personnes sur plusieurs semaines dans les salles de classe de son école. Il s'agissait d'offrir un refuge aux personnes dont les logements avaient été endommagés ou dont les bâtiments semblaient peu sûrs. Des couvertures, de la nourriture, des soins divers ont été fournis. D'autres paroisses et lieux d'église ont également accueilli des personnes de manière temporaire et selon leurs possibilités. Les coûts engendrés par ces accueils ont rapidement été couverts par des aides provenant de différentes églises et organisations européennes et américaines. Il est officiellement estimé que sur l'ensemble de la Syrie, environ 6 000 personnes sont décédées sur 56 000 victimes en tout, que 12 000 ont été blessées de manière importante, mais que le séisme a affecté plus de 8 millions de personnes en raison des destructions de bâtiments, de dommages divers et l'impact sur les conditions de vie. Quant aux autres projets de l'Église protestante du Synode arabe, nous en parlerons à l'occasion d'une autre émission. Nous arrivons à la fin de cette émission pour aujourd'hui. Je vous rappelle que Poussière et Granit, que vous êtes en train d'écouter, est diffusé le mardi à 8h20, le jeudi à 11h15 et le samedi à 10h10. Au revoir et bonne journée.